VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel, bonjour à tous. Un Tunisien et son épouse ont été interpellés hier soir en Allemagne après la découverte dans leur appartement d'une substance toxique présumée mais non identifiée, a annoncé aujourd'hui la police qui n'exclut pas un contexte terroriste. Selon l'agence de presse allemande DPA, les enquêteurs tentent de déterminer si le couple préparait une attaque. En Guinée-Bissau, grève depuis hier de la fonction publique, certains patients déjà commencé à abandonner l'hôpital national Simao Mendes, le principal centre hospitalier du pays. Notre correspondant Nouama Kali nous en dit plus.
L'Union nationale des travailleurs de la Guinée-Bissau, UNTG, a entamé ce mardi la deuxième vague de grève de 3 jours dans le but d'obliger le gouvernement d'Aristide Gomis à se conformer au réajustement des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne. Une grève générale convoquée par le central syndical n'a pas atteint les secteurs du transport et du commerce, mais aussi de l'éducation nationale. On précise que ce début de grève de 3 jours a commencé à se faire sentir négativement au niveau du principal centre hospitalier du pays. On rappelle que l'une des raisons de la grève serait la non-conformité avec certains points de revendication du central syndical, à savoir la question de l'augmentation des salaires dans la fonction publique bissau-guinéenne, mais aussi la mise en œuvre d'une nouvelle grille salariale, entre autres. Nouame Nkeli Bissau, VOA Afrique.
Le directeur général de l'OMS a appelé hier à renforcer la vigilance à propos de l'épidémie d'Ebola, et ce malgré la stabilisation constatée dans le nord-ouest de la RDC. Cet appel intervient à la fin d'une visite de 3 jours. Les précisions, John Lydon.
Sur la base des statistiques, on peut voir que la situation se stabilise, mais la guerre n'est pas finie. Il faut continuer à renforcer la vigilance et la surveillance, a déclaré le docteur Tedros Adhanom, directeur général de l'OMS à Kinshasa lors d'une conférence de presse avant son départ pour l'Éthiopie. La maladie Ebola n'est pas finie avant d'être vraiment finie parce qu'un cas dans un milieu urbain peut encore déclencher l'épidémie, a-t-il ajouté, se réjouissant d'avoir franchi le cap de plus de 2000 personnes vaccinées dans la province de l'Équateur. En Mbandaka, ville de 1,2 million d'habitants, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 12 mai, et à Bikoro, localité à l'origine de la maladie, aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis le 13 mai. Le dernier cas enregistré a été signalé le 6 juin à Itibo, un village proche de Bikoro. L'épidémie d'Ebola avait été déclenchée le 8 mai à Bikoro, à 100 km de Mbandaka et à 600 km de Kinshasa, dans la province de l'Équateur, à la frontière avec le Congo-Brazzaville. C'est la 9e fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976.
L'Afrique du Sud a levé aujourd'hui l'état de catastrophe naturelle décrété à la mi-février en raison de la sécheresse historique qui frappait la région du Cap, la deuxième ville du pays. À la mi-février, l'état de catastrophe naturelle avait été décrété dans tout le pays alors que le Cap était menacé d'une rupture d'approvisionnement en eau potable au prix d'une réduction drastique de sa consommation. La deuxième mégapole sud-africaine a réussi à éviter de justesse le très redouté jour zéro où l'eau devait être coupée au robinet. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a appelé aujourd'hui le président français Emmanuel Macron à faire preuve de générosité dans l'accueil des migrants, jugeant que la France n'avait pas respecté ses engagements en la matière. Intervenant devant le Sénat, M. Salvini a rappelé que la France s'était engagée à accueillir plus de 9000 migrants arrivés ces dernières années en Italie, mais qu'elle n'en avait accueilli que 640. Il a donc invité le chef de l'État français à passer de la parole aux actes et à donner un signal de générosité en accueillant ces migrants. Le Parlement britannique continue d'examiner aujourd'hui le projet de loi sur le Brexit après un premier vote hier qui a vu le gouvernement conservateur de Theresa May éviter une défaite au prix de concessions en direction des députés pro-Union européenne. Les débats qui doivent démarrer en début d'après-midi vont porter principalement sur la question du maintien d'une union douanière entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Le gouvernement a trouvé un arrangement avec sa majorité et un amendement de compromis porté par des députés Tories pro et anti-Brexit devait être adopté.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À À ce micro, Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington. Première réaction essentiellement optimiste en Corée du Nord après le sommet que le président américain Donald Trump vient d'avoir à Singapour avec le leader nord-coréen Kim Jong-un. Selon l'agence de presse d'État de Pyongyang, le dirigeant nord-coréen prendra de nouvelles mesures si les États-Unis adoptent des mesures sincères de construction de la confiance.
Kim Jong-un a déclaré qu'il est urgent que les États-Unis et la Corée du Nord prennent des mesures courageuses pour arrêter les actions militaires hostiles d'un côté comme de l'autre, tout en mentionnant la promesse du président Trump d'arrêter les manœuvres militaires avec la Corée du Sud. L'agence de presse nord-coréenne a aussi mentionné que Kim Jong-un a invité Donald Trump à visiter la Corée du Nord et que le président américain l'a de son côté invité à Washington, ajoutant que tous les deux ont accepté ces invitations, considérées comme une autre occasion importante d'améliorer les relations. Le monde a fait un grand pas qui l'éloigne d'une potentielle catastrophe nucléaire. Plus de lancement de fusées, d'essais ou de recherches nucléaires, a écrit M. Trump dans un tweet, sans confirmer pour l'heure avoir accepté l'invitation à Pyongyang.
Le Kremlin a salué aujourd'hui le début d'un dialogue direct entre les États-Unis et la Corée du Nord, au lendemain donc de la première rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Quels que soient les résultats de telles rencontres, elles permettent d'apaiser les tensions sur la péninsule et cela ne peut susciter que de la satisfaction, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. Pour Paris, la rencontre entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est une avancée incontestable, mais la volonté affichée par ce dernier de dénucléariser doit être vérifiée, a fait savoir le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian. Le dossier de ce journal, la Coupe du monde de football en Russie démarre demain jeudi. Le continent est représenté par 5 équipes, dont le Sénégal, un pays qui a vu la création ces dernières années de centres de formation comme Génération Foot. 3 de ses expansionneurs sont dans l'équipe sénégalaise. Parmi eux, la star Sadio Mané, faisant la fierté de tout le centre. Reportage à Dakar, Abdourahmane Dia.
Une séance d'entraînement pour des jeunes qui aspirent à suivre les pas de grands noms du football sénégalais qui, il y a quelques années seulement, étaient passés par ce même centre. Des jeunes rêveurs et motivés à devenir footballeurs professionnels et porter un jour le maillot national. Amadi Lamine Conté, 21 ans, est à Génération Foot depuis 4 ans.
Si on voit certains joueurs qui étaient ici et jouer à la Coupe du Monde, ça nous fait une fierté parce qu'on a eu à côtoyer certains joueurs comme Ismaël Sarr qui était ici avec nous. Donc si on le voit jouer jusqu'à marquer des buts en équipe nationale, je peux dire que c'est notre fierté, quoi.
Un rêve porté par Madi Touré, le fondateur de Génération Foot, en partenariat avec le club français du FC Metz.
Quand on prend ces jeunes à bas âge, qu'à la sortie, ils réussissent, ça peut que nous faire plaisir et une motivation supplémentaire. Ça veut dire que le travail que nous sommes en train de faire est un bon travail. Et nous voulons continuer à sortir des gens comme Sadio Mané, mais plus fort que Sadio Mané.
Le centre accueille aujourd'hui 120 pensionnaires qui allient études et sport. Et pour le formateur Abdoulaye Sarr, le football sénégalais devra désormais compter avec ses académies.
Aujourd'hui, il faut dire que quand on voit la configuration de notre équipe nationale pour Russie 2018, mais nous voyons exactement que c'est des jeunes, pour la plupart, nés ici. Même s'il y a des Sénégalais nés à l'étranger, surtout en France, mais la part de jeunes formés au Sénégal, nés au Sénégal, à cette part domine largement dans l'effectif qu'il y a. C'est le travail des clubs, mais aussi des centres de formation qui, depuis quelques années, sont installés ici.
Et le manager général Olivier Perrin voit même une amélioration des conditions depuis la création du centre.
Quand j'ai reçu Sadio Mané à Metz et Diafa Sakho, ils n'ont pas travaillé sur ces structures ici. Et ces garçons-là ont été obligés de faire un an et demi de centre de formation avant de pouvoir postuler à jouer en professionnel. Ce qui n'est pas le cas des joueurs qu'on envoie aujourd'hui qui vont directement en professionnel et qui sont beaucoup plus prêts à partir. Voilà.
Ces jeunes footballeurs vont donc suivre cette Coupe du Monde dans l'espoir d'être un jour à la place de ceux qui les ont précédés au centre. Abdourahmane Dia, Dakar, VOA Afrique.
Merci Abdourahmane. La Coupe du Monde 2026 sera organisée par le trio États-Unis, Canada, Mexique, un camouflet donc pour le candidat africain, le Maroc, qui perd une chance d'organiser le mondial. Jean-Roger Billon, point final à ce journal. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.